on a tous une responsabilité face un peu à cet effondrement de société, à ce changement de paradigme économique, de penser le nouveau modèle de vivre ensemble.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activer l'économie circulaire. Aujourd'hui, je suis avec Benoît Varin. Bonjour Benoît.
Bonjour Brieux, bonjour à tous et à toutes. Et
comment ça va ?
Très très bien, un bel été, une belle fin d'été en perspective. On prépare un repas de rentrée pour tous les collègues et on est content. Ça sera petite salade végane au tofu et au quinoa.
Alors, je suis très content de t'avoir parce que ça fait quelques temps qu'on essaye de faire cette interview. Donc, pour préciser à tout le monde, on a la mi-août qui est passée, donc on a trouvé un petit peu plus de créneaux pour pouvoir discuter. Pendant cette heure, on va discuter un petit peu de ton parcours, notamment chez e-commerce, et puis voir un petit peu quelle est ta vision surtout de l'économie circulaire, notamment en France, puisque t'as une expérience plutôt riche et intéressante sur le sujet. Mais déjà, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, s'il te plaît ?
Alors, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur dans le développement durable et l'économie circulaire. J'ai commencé principalement en étant étudiant à l'Institut Mines Télécom à Évry dans le 91, où j'étais étudiant. Et là, j'ai co-créé la Fédération étudiante du commerce équitable, Équitaire, à l'époque, qui était le premier site web de vente de produits du commerce équitable en ligne en 2001. Et donc, on travaillait sur vendre des produits qui avaient du sens, qui permettaient de rapprocher le consommateur du producteur, de partager la valeur et surtout d'être le plus transparent et permettre aux producteurs de toucher le plus d'argent possible en associant la technologie, en associant la vente en ligne. Ça, c'était en 2001. Après, j'ai créé pendant l'école et à la sortie d'école un bureau d'études, cabinet de conseil en développement durable pour monter des filières de recyclage et de réemploi. Où j'ai travaillé.
Ça s'appelait Ticketic, non ?
Exactement, Ticketic, TICETHIC. Ça a été créé en 2005, où l'objectif c'était d'accompagner les acteurs de l'éthique, des associations, des entreprises qui avaient envie de développer des filières qui avaient du sens, des valeurs, et d'utiliser les technologies.
Surtout qu'à l'époque, ça devait être assez novateur. Enfin, je veux dire, tu ne devais pas avoir tant de monde que ça en discuter, si ?
Alors non, au début, c'était compliqué. Hein. Les premiers clients que j'ai pu avoir, ça a été des acteurs comme Emmaüs, comme l'UNESCO. Nations Unies, on a pu travailler, on a pu monter un consortium international. On avait travaillé d'ailleurs à Genève avec les Nations Unies avec plus d'une dizaine d'acteurs. On a écrit un livre pour essayer de transmettre du savoir et du business plan open source pour permettre à des entrepreneurs de créer des entreprises autour du recyclage d'équipements électroniques. Donc ça a été un livre qu'on a sorti en 2007. Ça a été un travail de deux ans. On a travaillé avec l'Agence de l'environnement en France, mais aussi le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc une grande étape dans ma vie, ça a été une étape passée à Genève où on a présenté ce livre devant une cinquantaine d'experts. Et là, il y a eu un avocat américain qui nous a dit « Mais en quoi on est sûr ou comment vous pouvez nous confirmer que votre livre, il va marcher et que votre business plan, il est utilisable ?» Donc là, avec mon associé, qui est toujours mon associé, avec Pierre-Étienne Roana, on a dit « Chiche !» Et on lui a dit « Écoutez, on va vous vous le montrer. On va vous le démontrer. Rendez-vous dans 3 ans, quoi. Et là, on s'est dit, allez, 3 ans pour monter la boîte industrielle qui ferait du réemploi et du recyclage d'équipements électroniques. Et c'est comme ça que aussi par défi, on s'est dit, on va lancer nous-mêmes notre propre société industrielle pour faire du réemploi et pas rester dans des théories ou dans des concepts. Donc, ce livre nous a beaucoup aidé à maturer notre projet qui est Recommerce maintenant, qui est devenu Recommerce. Donc ça, ça a été en 2008. On a commencé à incuber le projet dans un incubateur et en 2009, à lancer la société qui est maintenant Recommerce Group. Avec plus de 85 collaborateurs, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés sur une tendance de 65 millions et en pleine croissance encore.
Incroyable, je ne connaissais pas cette anecdote de la création de Recommerce parce que moi je connais l'histoire où vous êtes 4 associés, etc. Mais cette anecdote à Genève, c'est incroyable parce que tu peux te retourner avec ton associé de l'époque, mais bon, tu peux. On peut souvent être provoqué comme ça, mais de là à se dire, bon, bah, ok, on y va, c'était assez fort, quoi.
Ah bah, nous, on avait passé 2 ans à travailler sur ce business plan, à écrire ce livre. On l'avait présenté de manière très, très pro devant une enceinte d'experts. Et c'est vrai d'être mis comme ça un peu au pilori et challengé. Et surtout, c'était aussi l'aboutissement de 4 ans de conseils et d'études auprès de pas mal de dirigeants de grosses sociétés qu'on accompagnait sur l'étude de faisabilité, étude de réalisation de business plan. Et à chaque fois, on entendait à peu près la même chose, c'est que les dirigeants disaient non, j'y crois pas, c'est bien théoriquement, mais le réemploi, la réparation, l'occasion, c'est pas fait pour moi. Ou alors acheter, réparer, reconditionner, revendre, c'est compliqué, je suis pas assez industriel, ça c'était Emmaüs. Ou alors, c'était un industriel qui disait « Mais non, l'occasion, c'est pour les pauvres et les gens qui n'ont pas d'argent. Moi, je fais du haut de gamme, donc je ne vais pas me lancer dans l'occasion. » On a eu tellement, tellement de retours comme ça, on ne comprenait pas pourquoi les gens n'y croyaient pas à l'époque. On s'est dit aussi « faut qu'on se remonte les manches et qu'on y aille vraiment nous, sinon personne n'ira. » C'est pour ça qu'en 2009, on a lancé Monextel.com, la première marque et le premier site web de rachat de téléphone portable en ligne qui permettait à n'importe qui avait un téléphone portable dans son tiroir de le revendre, de nous le renvoyer par la poste gratuitement. Et si le téléphone avait de la valeur, on le reversait à l'association de son choix, une association de développement durable. Donc ça, en 2009, on avait lancé le premier site web qui permettait de faire ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, pas grand monde ne croyait à l'occasion, ne croyait qu'on allait pouvoir créer un modèle économique viable autour de cette nouvelle économie, quoi.
Ouais, surtout, j'imagine que le reconditionnement, tout ce qui est occasion, bah, on imagine des trucs un peu poussiéreux, etc. Alors que quand on voit les produits que vous remettez aujourd'hui sur le marché, on ne peut presque plus faire la différence entre du neuf et de l'occasion, quoi.
Alors, c'est le défi. Le défi, c'est effectivement d'arriver à fournir une expérience client qui soit le plus professionnelle. Après, l'autre défi, c'est aussi d'assumer qu'un produit, c'est un produit usagé, d'assumer qu'on donne une seconde vie à un produit qui a déjà vécu et qu'on doit aussi rendre accessible en termes de prix. Maintenant, il y a quand même des différences entre du neuf et du reconditionné, puisque tous les téléphones ne sont pas remis à neuf, ça coûterait trop cher. Mais par contre, tous nos téléphones chez Recommerce sont garantis 12 mois. Donc, sur Recommerce.com, si tu achètes un téléphone sur Recommerce.com, d'ailleurs, je sais pas, tu m'as pas dit, mais si tu voulais, je pourrais transmettre à tes auditeurs un code de réduction.
Non, on fera ça à la fin, il n'y a pas de souci, avec plaisir.
Qui écoute le podcast, ils peuvent bénéficier de 15% sur notre site web. Et donc, du coup, tu peux avoir un téléphone qui est usagé, qui est marqué, mais garanti, et dans une expérience utilisateur où tu as un service client qui va t'accompagner si tu as le moindre problème. Tu as une logistique qui va te livrer en moins de 72 heures ton téléphone que tu vas recevoir par la poste ou sur une zone gratuite, dans un espace gratuit. Donc on fait énormément de solutions disponibles. Tu peux même acheter au téléphone maintenant dans des boutiques Bouygues Télécom avec un forfait pour 5 à 6 euros. Tu as un téléphone reconditionné avec un forfait. Tu peux aller dans des boutiques Auchan, Boulanger, tu peux trouver nos téléphones en rayon. Donc, on a essayé de rendre accessible le téléphone reconditionné, le produit d'occasion dans différents canaux de distribution.
Et pour l'anecdote, est-ce que vous êtes retombé sur cet investisseur ou ce fameux type qui vous a provoqué un petit peu à Genève?
Bah, pour l'anecdote, on n'est pas retourné, ils nous avaient réinvités, on n'avait vraiment pas le temps d'y retourner. Et pour l'anecdote, on leur a dit, là, on est devenu industriel, on n'a plus le temps de venir, de venir dans les réunions, qui effectivement, servent pas à grand-chose et qu'il faut mieux, essayer de développer des filières industrielles. Et on les a remerciés, pour le conseil. Mais ouais, on a dû quitter un peu ces instances, extraterritoriales. Parce que là, maintenant, depuis qu'on est devenu industriel, c'est quand même une grosse responsabilité en termes de qualité, en termes de management, en termes de gestion financière. Et on a dû quitter un peu toutes les instances qui n'étaient pas forcément utiles directement pour développer l'économie circulaire. Et il y a beaucoup de groupes de travail extra-national qui discutent sur beaucoup de sujets, mais au final, voilà, c'est pas là où ça se passe vraiment, quoi. C'est pas là où on peut faire bouger les choses. C'est vraiment en étant créateur, entrepreneur, en testant des solutions et en allant réparer des produits, en rachetant des produits. C'est là où moi j'ai trouvé du sens dans ma vie aussi, dans mon parcours, de me dire, voilà, plus je suis proche du terrain à tester de nouvelles solutions pour réemployer, à rencontrer les entrepreneurs, à accompagner le secteur, à apprendre les bonnes pratiques et puis bah, tous les collaborateurs, à être proche de mes collaborateurs pour pouvoir continuer à maintenir cette vision. C'est là où je me sens utile. Après, toutes ces personnes-là qui sont dans des hautes sphères sont quand même très éloignées des vrais besoins, des vraies solutions. Et donc, je préfère me consacrer mon temps à des choses utiles comme le réseau R-Cube ou le management.
On va y revenir. Et justement, pour en finir avec cette période, le constat que vous aviez fait à l'époque, donc c'était évidemment que le reconditionnement, la revente de produits d'occasion, notamment sur les téléphones portables, n'existait pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme éléments clés qui vous ont donné envie de foncer sur ce gisement?
Alors moi sur le sujet de l'occasion, ça fait bah, quasiment 15 ans que je suis dessus, que j'avais l'intuition et que je savais en tant que moi-même consommateur de produits d'occasion depuis toujours. Hein, j'ai toujours acheté au vide-grenier, j'ai toujours allé dans des Emmaüs acheter des fringues. Et donc j'avais juste la certitude qu'il fallait développer des solutions pour rendre accessible ces achats-là, puisque je voyais bien qu'autour de moi, c'était pas courant. Moi, je viens d'une petite ferme en Normandie où on a l'habitude de réparer les choses, une petite ferme où il y avait beaucoup de gens qui passaient, puisque c'était une ferme pédagogique où il y avait des gens en vacances de Paris qui venaient, et puis des voisins un peu, ou des personnes en insertion qui venaient aussi. Et je voyais bien qu'il y avait plein de monde différent et que tout le monde consommait pas pareil. Et moi, ma réflexion, c'était comment rendre accessible une consommation plus responsable auprès du plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça que j'avais la conviction que quand j'ai commencé ma vie professionnelle, c'était ça qu'il fallait que je fasse, rendre accessible à une consommation plus responsable. Et c'est comme ça que j'ai aussi développé certaines ressourceries. J'ai accompagné la création d'une dizaine de ressourceries en faisant des études de faisabilité, études de marché. C'est principalement des accompagnements de collectivités territoriales, de comités d'agglomération qui cherchaient à développer ces filières-là de réemploi pour lutter bah, contre le gaspillage, limiter les coûts aussi de gestion des déchets, puisqu'on est quand même dans une situation de saturation des infrastructures de gestion de déchets.
Oui, tout à fait.
Donc il y avait aussi, et il y a toujours cette réflexion-là, de comment voilà, proposer de nouvelles solutions pour éviter le déchet, pour limiter aussi les coûts pour la société. Puisque tout produit usagé rend quand même un coût non négligeable pour la société.
Et justement, là, tu commences à toucher du doigt ma question suivante. C'était quels sont les impacts évités justement grâce au réemploi par rapport à l'achat d'un produit neuf? Parce que On peut faire une liste assez énorme, mais toi, c'est ton sujet, donc je pense que tu auras sur sur un smartphone, qu'est-ce que ça amène finalement comme impact?
Bonne question. Alors, le principal impact, quand même, nous, on le mesure en CO2 non émis. C'est-à-dire que plus tu prolonges la durée de vie d'un produit, plus tu peux l'émission de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'ordre de grandeur, c'est 80% de l'impact d'un produit a lieu au moment de la production.
Oui, faut même intégrer aussi toute l'extraction des matières premières.
Exactement. Quand tu intègres extraction des matières premières, transport de ces matières premières, transformation de ces matières premières en sous-ensembles, assemblage de ces sous-ensembles,
Avec toute l'énergie nécessaire pour les transformer en plus.
avec toute l'énergie effectivement nécessaire, l'énergie à la fois direct, mais aussi indirect, toute l'énergie grise de tous les ingénieurs en R&D qui ont pu tester différents prototypes avant, etc. Et après, il y a le transport. Et on dit que, par exemple, un téléphone portable, avant qu'il arrive dans la poche d'un client, il a fait quasiment 4 fois le tour du monde. Les pièces détachées ont été transportées d'un bout à l'autre, ça a été assemblé par une autre usine, ça a été retransporté, le téléphone est assemblé, il va être mis en emballage ailleurs, il va être retransporté. Bref, c'est énormément aussi de logistique et on sait que le transport produit aussi énormément de gaz à effet de serre et émet beaucoup de gaz à effet de serre. Et on peut reprendre effectivement, donc ça c'est le premier indicateur et le premier impact du réemploi, c'est limiter les émissions de CO2 ou alors on va dire plutôt amortir. C'est plutôt cette image-là que je prends, c'est d'amortir sur la
Oui,
durée.
parce qu'effectivement, ça a déjà été fait, mais au moins, on va optimiser ce qui a été fait plutôt que de refaire, de nouveaux téléphones, quoi.
Exactement, exactement. Donc ça, c'est le gros avantage, le plus gros impact, c'est sur les gaz à effet de serre. Après, le deuxième impact, le deuxième indicateur, c'est la ponction de matières premières, primaires. Donc plus on va utiliser un produit, plus on va aussi amortir son sac à dos écologique, que ce soit le CO2 ou la matière première. Les Allemands, l'université de Wuppertal Institute, parlent de sac à dos écologique. Et de dire, voilà, chaque produit a derrière lui, on ne le voit pas de manière non matérielle, mais incorporé à un volume de matière première, primaire injectée pour pouvoir produire ce produit.
Ce que d'autres appellent aussi, ce qu'on appelle les matières premières mobilisées, quoi.
Voilà, matière première immobilisée ou sac à dos écologique, c'est assez proche comme concept. Et donc, plus on va transporter ce téléphone, plus on va amortir ce sac à dos et donc on va aussi amortir les matières premières primaires ponctionnées. Donc ça, c'est les deux impacts importants. Après, bien
Et
sûr.
d'ailleurs, pour avoir un ordre d'idée, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on est sur du 110-120 kilos de matières mobilisées. Ou de sac à dos écologique, comme tu dis, pour un téléphone de quelques centaines de grammes. Enfin, et si c'est, corrige-moi si c'est pas cet ordre de grandeur-là, mais je crois qu'on est vraiment dans cet esprit-là.
Ah, exactement, exactement. On est pour 100 grammes, à peu près à 100 kg de matière première ponctionnée pour pouvoir produire un téléphone. Donc c'est extrêmement important. Il faut savoir, pour une voiture, en proportion, c'est une voiture qui fait 1 tonne, il faut 2 tonnes de matière première pour fabriquer une voiture d'une tonne. Donc c'est en proportion, plus c'est petit, plus c'est miniaturisé, plus il faut de l'énergie, plus il faut de la matière première pour produire. Et plus pour ponctionner juste les métaux nécessaires, extrêmement rares, eh ben, il faut sortir énormément de terre, d'autres matières pour pouvoir sortir juste les grammes de minerais comme le lithium ou l'or ou l'argent, les plus connus, pour pouvoir produire ces micro-composants. Donc effectivement, l'impact écologique, il est fort. Après, il y a l'impact social. Nous, on a reversé plus de 150 millions d'euros à des clients particuliers français, qu'avec Recommerce, depuis 10 ans, là, on a fêté nos 10 ans, enfin, on est en train de les fêter, que c'est au mois d'août 2009 qu'on a créé Recommerce. Depuis 10 ans, on a reversé plus de 150 millions d'euros à des clients français, à des particuliers qui nous ont revendu leurs produits qu'ils n'utilisaient plus. Donc ça, c'est un impact social et économique aussi, c'est qu'on a remis sur le marché de la valeur pour que les gens puissent faire autre chose que stocker leurs produits. On a effectivement aussi créé des emplois, hein, on a plus
Mais alors,
de.
attends, 150 millions d'euros, ça fait combien de téléphones, ça? Parce qu'en plus, vous les rachetez, mais bon, c'est pas le prix neuf, mais bon, c'est une certaine somme, mais bon, ça fait combien de milliers ou millions de téléphones, ça?
Ah bah depuis 2009, on a traité plus de 2 millions 8 de téléphones.
C'est énorme.
Donc oui, c'est et ça continue à croître, hein. Maintenant, on est présent en Suisse, en Espagne, on est présent dans 24 pays. Alors, on collecte beaucoup en France et beaucoup en Suisse, plus en plus dans d'autres pays. On distribue dans beaucoup de pays. Et le secteur du réemploi, le secteur de l'occasion, du reconditionné, connaît un fort développement. Pourquoi? Pour des enjeux écologiques, pour des enjeux économiques. Les gens veulent aussi, on va dire, lutter contre le gaspillage et puis chercher des économies, à faire des économies. C'est quand même un bon plan en termes techniques, parce que les produits sont conçus pour durer plus de 5 à 7 ans, donc on peut reconditionner quand même et réparer, et donc les produits peuvent, hein, continuer à durer un certain temps. Et après, les autres impacts, pour répondre à ta question, bien sûr, il y a l'impact de création d'emplois et de dynamisation du tissu local, puisque en fait, nous, on est connecté avec plus de 7000 boutiques physiques et de nombreuses boutiques se sont mis à développer de nouveaux métiers. Des métiers de je rachète un produit usagé et je revends des produits reconditionnés. Et donc, il y a certaines boutiques qui ça leur permet de continuer à proposer de nouveaux services en local, permet aussi de créer une sorte de nouveaux métiers et de nouvelles solutions à leurs clients. Et donc, ça crée de l'activité en local. Nous, on a du mal encore à estimer le nombre d'emplois que ça a créé en boutique. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, on a plus de 250 techniciens, logisticiens qui travaillent pour nous, et on a 85 collaborateurs actuellement qui travaillent en direct dans nos bureaux. Des ingénieurs informaticiens, des contrôleurs de gestion, des commerciaux, des personnes qui font de la hotline, qui font de la relation client, voilà, des ingénieurs en informaticiens. On a beaucoup d'ingénieurs informaticiens qui travaillent sur comment développer de l'innovation et une plateforme informatique qui permet de faire du reconditionnement, qui permet de piloter les prix et d'assurer le juste prix pour un produit reconditionné.
Excellent. Et justement, j'aimerais juste en revenir sur ce que tu disais à l'instant sur tout ce qui est impact, on va dire, économique, sociaux, en termes de création d'emplois. On parle beaucoup, enfin, un petit peu moins, mais il y a quelques années, on parlait beaucoup de la nécessité de fabriquer en France, made in France, etc., notamment quand Arnaud Montebourg était ministre de l'Industrie. Mais depuis beaucoup de temps, il y en a qui finissent par comprendre que finalement, la fabrication, bah certes, c'est une bonne chose, mais il faut s'adapter au temps. Il faudra peut-être aussi passer tout simplement à tout ce qui est réparation en France. Déjà, si on savait faire le réparer en France, on créerait bah, des milliers d'emplois. Enfin, Recommerce, finalement, est une bonne illustration de ce principe-là.
Alors on dit qu'on peut effectivement, on pourrait créer 200 000 emplois. 200 000 emplois en France, ça c'est les chiffres qu'on a estimés avec la fédération R-Cube dont on fait partie. Pourquoi? Parce que si on arrive à augmenter les volumes de produits qui passent par des centres de test avant de les envoyer en recyclage ou en destruction, si on arrive à investir dans de la formation pour former plus de réparateurs, si on arrive à accéder à la pièce détachée pas chère, et à réduire les coûts de réparation, on arriverait à proposer beaucoup plus de produits réparés. Actuellement, il y a beaucoup trop de freins, même pour réparer en France. Un, pénurie de main-d'œuvre de techniciens, réparateurs. Deux, des coûts très importants liés, que ce soit à la fiscalité, une TVA, une fiscalité à 20% sur la pièce détachée, 20% sur de la main-d'œuvre, 20% sur énormément de coûts. Lié à la réparation, donc c'est très, très compliqué. Le marché de l'économie circulaire se situe plutôt à l'échelle européenne, pour des questions de volume, pour accéder à des volumes, puisque ces activités de réparation, reconditionnement dépendent quand même des volumes disponibles pour pouvoir maintenir une des chaînes de production, de réparation, amortir les investissements faits. Il y a énormément de coûts associés au secteur de la réparation. Les premiers coûts, c'est la main-d'œuvre, mais surtout la qualité. On a du mal à recruter des techniciens qualifiés en réparation.
Et puis j'imagine que pour créer le savoir-faire, ça doit être sacrément dur. Et puis en plus, vu le volume et le rythme de sortie des produits, ça doit être une adaptation permanente à créer, quoi.
Exactement, exactement. Les produits changent énormément. Il y a des modèles qui sortent souvent, donc c'est difficile d'avoir une chaîne de production homogène sur un seul produit. Donc, effectivement, faut être capable d'avoir énormément, par exemple, de pièces détachées différentes. Ça, c'est un vrai coût de gestion, d'immobilisation de pièces détachées, de sourcer, d'accéder à la pièce détachée. C'est souvent compliqué. Les producteurs, les fabricants ont souvent du mal à nous mettre à disposition des pièces détachées à des prix accessibles pour nous permettre de maintenir un modèle économique viable, et on est dépendant de l'accès aux pièces détachées. Ça, c'est un point important. Et puis toute la fiscalité associée au secteur de la réparation, où on a une TVA à 20% et il faudrait pouvoir la réduire. Donc on reste sur un secteur assez fragile pour pouvoir continuer à développer le secteur, même si effectivement on pourrait notre secteur de la réparation, de l'économie circulaire pourrait en boucle fermée continuer à alimenter une consommation entre guillemets d'usage pour accéder à l'usage, et puis que les produits on puisse les réparer à l'infini et les reprêter, les louer, les remettre à disposition, les reprendre, les réparer. Et là, on pourrait créer énormément d'emplois, du service, de techniciens, de logisticiens. Mais il faut que la France, il faut que l'Europe, il faut que le système financier, fiscal, développe une vraie filière.
Et malheureusement, la prise de conscience n'est pas encore bien partagée par tous les acteurs que tu cites là.
Ah ben, la prise de conscience, elle est prise par les citoyens, par les consommateurs, hein. Nous, on a plus d'un Français sur deux qui nous disent je suis prêt à acheter un produit reconditionné. C'est quand même la réalité. Quand on a commencé il y a 10 ans, c'était 5%. Les gens qui disent bah ouais, ça m'intéresse d'acheter de l'occasion, quoi. Maintenant, c'est plus d'un Français sur deux qui disent je suis prêt à acheter du reconditionné. Donc là, il y a un vrai changement de mentalité. Le problème, c'est les institutions, les décideurs. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les industriels, qui doivent aussi changer leur mode de pensée et doivent prendre conscience de ce changement de société. Et ça, c'est plus compliqué pour certaines personnes qui n'ont pas intérêt non plus à changer leur modèle, hein. Moi, je prends souvent l'exemple du train. Face aux gens qui transportaient, qui étaient les gestionnaires de diligence, bah, les grands patrons qui étaient des gestionnaires de diligence n'avaient pas intérêt à ce que le train arrive, quoi. Voilà, mais le train, ça a permis quand même un développement fort de notre société. Et donc, on est face à ça, quoi. Les recycleurs n'ont pas intérêt à ce que les réparateurs se développent. Les constructeurs n'ont pas intérêt à ce que les réparateurs se développent, parce que vendre un produit reconditionné.
T'as mis en cause un modèle économique.
Voilà, et puis ces acteurs-là industriels sont très puissants, font que beaucoup de représentants des citoyens, et je pense qu'au gouvernement et ailleurs, font qu'ils n'ont pas envie de bousculer trop vite les lignes de force. Donc on est face à ce renouveau, à ce changement. Il faut que notre discours, que notre secteur soit représenté à l'échelle européenne et à l'échelle nationale. Mais on est en train de bouger.
Et en plus, vous battez face à des mastodontes et des budgets marketing qui sont pas ceux de e-commerce, quoi.
Ah, c'est sûr, nous, à côté d'Apple, nos 65 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils sont petits, mais symboliquement, on reste fort. Apple a lancé la semaine dernière le fait que ils essayent d'atténuer l'expérience utilisateur d'acheter un téléphone reconditionné, en disant bah voilà, si c'est pas reconditionné par Apple, tu vois plus le niveau de ta batterie. Et donc, ça inquiète les utilisateurs. Bon, ça, c'est des petits coûts qui sont faits à la réparation. On pense que c'est aussi parce qu'ils ont peur du secteur de la réparation et du reconditionnement et qu'ils essaient de répondre comme ça. Mais c'est une tendance tellement de fond que ça va changer.
Oui, c'est sûr. Mais comme d'habitude, les gros éléphants ne veulent pas prendre le virage, quoi.
Ouais, c'est parce qu'ils savent pas comment le prendre non plus, donc ils regardent aussi.
Ouais, enfin là, on parle d'organisation internationale qui dépasse largement le cadre européen. Donc, c'est clair que c'est très, très difficile pour eux de voir une petite tendance dans certains pays, etc. Et puis, enfin, bon, bref, c'est plutôt difficile. Et justement, ça m'amène à un autre sujet. Dans le secteur du mobile, on a beaucoup entendu parler du Fairphone. Alors, on n'est pas sur le même aspect, mais est-ce que tu as des remarques sur ce projet qui est quand même assez vertueux? Donc, le Fairphone, pour rappel, hein, ce sont des Néerlandais qui ont créé l'entreprise pour justement faire en sorte de faire un smartphone plus équitable, notamment qui fasse pas appel à l'extraction de matières premières via des mafias ou qui font appel parfois des enfants dans des conditions déplorables, etc. Donc ça, c'est des grandes lignes, mais en plus c'est un téléphone qui est réparable avec des matières, enfin des composants, pardon, qui sont plus facilement accessibles, etc. Donc toi, évidemment, avec ton œil d'expert sur le sujet, qu'est-ce que tu en penses du Fairphone?
Bah, ça reste l'ancienne économie où on produit à l'autre bout de la planète et on ponctionne des matières premières primaires neuves pour assembler, qui est transportée. Ça reste un, c'est des produits qui maintiennent une culture de la consommation du neuf. C'est une, on va dire, une innovation un peu marketing qui est intéressante pour faire bouger aussi les constructeurs et pour faire que les constructeurs deviennent plus transparents. Ça, c'est bien pour alerter sur les exploitations qui peuvent avoir lieu dans l'industrie minière. Le problème, c'est que ça fait un peu concurrence aussi à notre secteur du reconditionnement. Très clairement, hein, c'est un client qui a envie de consommer responsable, il peut hésiter entre acheter un produit reconditionné ou acheter un produit Fairphone. Donc, nous, on est, moi, ayant passé 5 ans dans le commerce équitable, c'est bien de sensibiliser la consommation responsable et de se dire il faut être vigilant sur comment sont produits les produits qu'on achète. Après, ça reste de la production de matières premières, primaires. Et nous, ce qu'on essaie de développer et de promouvoir, c'est le fait que il faut arrêter de produire quelque part, mais il faut utiliser déjà toutes les ressources qui ont été ponctionnées et
Oui,
se
c'est
mettre
sûr.
à vraiment fonctionner sur une nouvelle mode un nouveau mode de vie, une nouvelle économie, de l'économie de la réparation, du réemploi, du reconditionnement, et qu'il faut développer surtout, et ça je le fais aussi à titre entre guillemets d'élu, en tant que président de la Fédération du réemploi et de la réparation qui est RQ.org. Et au sein de RQ.org, on dit voilà, il faut changer les modes de production, changer les modes de consommation et rendre le secteur du réemploi, le secteur de l'économie circulaire accessible au plus grand nombre par justement une situation, un contexte fiscal positif, de la sensibilisation et aider les entrepreneurs à créer des modèles économiques viables qui permettent de réemployer beaucoup plus et de sortir tous les produits qu'on a de nos tiroirs pour les réparer et les remettre sur le marché.
Et justement, tu anticipes toutes mes questions, c'est parfait. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus en détail? Donc là, tu nous as présenté un peu les objectifs de RQ, mais un peu l'historique, la genèse, et puis quelles sont un peu vos grandes actions phares depuis la création d'RQ?
Alors oui, Aircube, c'est une fédération qu'on a créée à une douzaine d'entrepreneurs. D'ailleurs, Brieuc en faisait partie à l'époque, en 2014. On s'est rassemblés à une douzaine d'entrepreneurs en se disant, voilà, en faisant le constat qu'il n'y avait pas de structure qui rassemblait des acteurs qui avaient pour ambition de développer ce nouveau secteur de l'économie circulaire, ce nouveau secteur du réemploi et du reconditionnement. Et donc, on a fait ce constat-là qu'il y avait, à part des fédérations du recyclage, pas de structure qui permettait de défendre et de représenter le secteur du réemploi. Surtout face à des mastodontes qui sont des Suez et qui sont maintenant représentés aussi par des acteurs, des éco-organismes. Comme Éco-emballage ou autres, qui sont qui ont le monopole un peu de la gestion des produits usagés. Donc face à ces mastodontes, face à ce marché en devenir, en 2014, on a décidé de créer R-Cube, R-C-U-B-E, comme R au cube, R de réduction, R de réemploi et réparation, pardon, et R de réutilisation. On a créé cette association qui a pour but de faire principalement trois choses, hein, de la représentation du secteur via du lobbying, via de l'influence, via d'essayer de modifier la réglementation. Deuxième projet, c'est développer les bonnes pratiques. Donc, c'est quoi un produit reconditionné? C'est quoi le marché de l'occasion? Donc là, via un label pour développer et faire reconnaître la qualité du reconditionnement. On a pu développer depuis 2015 un label qui s'appelle le label reconditionné, le label produit reconditionné, qui permet de faire reconnaître la qualité du reconditionnement. Et puis le troisième axe fort chez R-Cube, c'est bien sûr animer la communauté des entrepreneurs, des dirigeants, des gens engagés dans le réemploi, dans la réparation, pour développer ce réseau et organiser des événements. On organise tous les 2 mois des réunions groupes de travail apéro, et tous les ans, on organise un grand événement national. Et cette année, il aura lieu le 21 novembre 2019 à Paris, avant le 21, pendant la semaine européenne de réduction des déchets, qui s'appellera les états généraux du réemploi et de la réparation. Et donc, on invite bien sûr tous ceux qui sont intéressés par ces sujets à venir nous rejoindre ce 21 novembre.
Ben, on mettra le lien dans l'article avec grand plaisir. Et mis à part ces états généraux du réemploi, c'est quoi finalement les prochaines étapes, les prochains objectifs de R-Cube, pardon?
Alors, les prochains objectifs, c'est avant tout la loi économie circulaire. Il y avait au mois de juillet, en Conseil des ministres, un projet de loi qui a été présenté en Conseil des ministres, qui s'appelle la loi économie circulaire, qui va être présenté au Parlement au mois de septembre. Donc là, notre objectif, c'est que dans cette loi, soit reconnu qu'il faut développer le réemploi, qu'il faut donner les moyens pour plus réemployer, donc avoir des moyens fiscal, réduire la TVA, permettre d'investir dans notre secteur et pas que dans l'industrie du recyclage, de la destruction, broyeur, incinérateur, mais d'arrêter d'investir dans ces technologies-là, mais d'investir dans des ateliers, dans la formation de techniciens, dans l'accès des pièces détachées. C'est bien sûr faire reconnaître le label pour avoir enfin un vrai label qualité reconnu pour rassurer les consommateurs sur c'est quoi acheter un produit d'occasion sur le même modèle que l'agriculture biologique. Ça, c'est notre ambition, de dire notre secteur de l'occasion doit être structuré comme le marché de l'agriculture et d'avoir enfin des reconnaissances. Et puis, bien sûr, d'avoir un réseau structuré pour rassembler tous les entrepreneurs pour pouvoir échanger et faire qu'on arrive à créer ces 200 000 emplois dans les quelques années qui arrivent, pour que notre secteur soit une réalité et que les consommateurs puissent plus facilement faire réparer leurs vêtements, leurs chaussures, leurs voitures, leurs équipements électroniques, et que le réflexe pour un Français sur 2, ce serait l'ambition qu'on a, c'est d'acheter un produit d'occasion reconditionné avant d'acheter du neuf pour limiter l'impact sur l'environnement. Et si on fait ça, on arrivera à réduire le réchauffement climatique de manière globale et mondiale, et de penser un nouveau mode de consommation.
Clairement. Et justement, tu as évoqué l'aspect un peu politique au niveau national. Que penses-tu finalement de l'évolution du secteur de l'économie circulaire? Enfin, c'est pas vraiment un secteur, mais disons de la dynamique de l'économie circulaire au niveau national depuis tes débuts il y a 15 ans.
Qu'est-ce qui a changé? Déjà, il y a une vraie prise de conscience des décideurs. Les investisseurs eux-mêmes, nous on a fait une levée de fonds de 50 millions d'euros, donc les investisseurs, les acteurs de la finance commencent vraiment à s'intéresser au secteur à impact. Là, il commence à y avoir des moyens financiers disponibles pour les entreprises qui sont en croissance. Ça reste compliqué quand on est en développement de son projet ou en création, mais ça reste accessible et de plus en plus, il y a des moyens financiers. Il y a maintenant un vrai marché. Les clients sont prêts à acheter de l'occasion. Donc, on a quand même maintenant des clients qui sont formés ou sensibilisés. Maintenant, voilà, il faut savoir trouver la bonne technologie, savoir trouver le bon modèle économique. Mais c'est un secteur qui a énormément évolué et qui va encore évoluer dans les prochains mois et les prochaines années et qui est en devenir. Et je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels, de talents qui ont aussi envie de s'engager dans des projets comme ça, en étant peut-être moins payés, mais qui ont envie d'avoir un vrai impact pour la société. Donc, on commence aussi à recruter des talents qui sont convaincus par le projet et qui rejoignent des sociétés comme Recommerce parce qu'il y a un projet et qu'il y a un sens avant le salaire. Donc ça, c'est quand même des actes forts qui font que notre secteur de l'économie circulaire est en plein développement.
C'est intéressant que tu évoques cet aspect parce qu'on l'avait discuté avec Marc Giget dans l'épisode 18, si je me souviens bien, où effectivement il disait que la recherche de sens, notamment il parlait des étudiants de la conférence des grandes écoles, notamment d'HEC, qui pour plus de la moitié voulaient s'investir dans des entreprises proche de l'ESS, ou en tout cas avec du sens, quoi. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement différent des promotions d'il y a 10 ou 15 ans. Et ça, c'est une vraie évolution que même toi, en tant que professionnel, tu ressens finalement.
Alors que je ressens, et plus que ça, c'est que c'est aussi moi mon moteur tous les jours où je me lève quand j'étais payé, quand j'étais pas payé pendant les 2 premières années, plus que ça même, pendant les 5 premières années de ma vie professionnelle, où j'étais payé au lance-pierre sur mes missions, je le faisais parce qu'il y avait cette énergie et cette volonté, cette ambition de changer les choses. Et puis maintenant que j'ai réussi, c'est encore plus responsabilisant de me dire, voilà, la vision que j'avais, on a réussi à en faire une partie. Il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de chemin et beaucoup de chemin à parcourir. Mais je sais que je suis sur la bonne voie. Et donc là maintenant, c'est plus un problème financier, c'est un problème organisationnel, c'est un problème politique, c'est un problème de mobilisation globale de la société. Mais notre économie.
Mais c'est un changement d'échelle le plus où tu es rendu là.
C'est un changement d'échelle complet. Et moi, à mon échelle, en tant que papa de 2 enfants, en tant qu'entrepreneur, en tant que aussi moteur de l'économie, j'ai encore envie de faire plus. Et je pense qu'on peut encore faire plus tous ensemble. Et c'est là que je suis hyper content de cette interview avec toi, Brieux, qui représente une étape aussi dans ma vie quand on s'est rencontré en 2014, qu'on a lancé ça à Aircube. Là, de refaire un point, effectivement, de parcours, c'est hyper intéressant. Et je sais qu'avec tout ce que tu as fait, les livres que tu as écrits, la manière dont tu dynamises aussi le secteur, c'est nos énergies qui vont faire qu'on va faire advenir cette nouvelle économie. Mais quelque part, tout est en jeu à l'heure où on se parle.
Oui, complètement. Je te remercie. Effectivement, nos petites briques sur le mur font plaisir, mais il faut continuer, effectivement. Et justement, tu l'as rapidement évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on revienne sur cet épisode. Tu as même été candidat aux élections législatives en 2017. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience ou
Alors,
tu veux pas forcément l'évoquer?
ah si, j'ai pas de problème pour l'évoquer. Moi, je suis en transparence. J'étais candidat aux élections législatives en 2017 sur la 5e circonscription du Loiret, entre Malesherbes et Fleury-les-Aubrais, Orléans, là où j'habitais à l'époque, pour Europe Écologie Les Verts. Je suis adhérent à Europe Écologie Les Verts et c'est un parti que je soutiens pour plein plein de raisons. Et que du coup, on voulait présenter en 2017 des candidats dans toutes les circonscriptions. Et on m'a proposé de faire candidat, de faire la campagne et d'être candidat que j'ai fait pendant 3 mois pour permettre à tout citoyen de pouvoir voter et pouvoir avoir une alternative et de se dire on peut voter autre que droite, gauche, extrême droite, extrême gauche. Et donc ce qu'on a réussi et ce qui a été d'ailleurs très positif avec les européennes où on a été quand même et on est le troisième parti, la troisième force politique du pays maintenant. Et troisième et quatrième en Europe, voire deuxième, c'est comment on fait les calculs, parce que c'est nous qui avons basculé les décisions en Union européenne. Donc du coup, ça c'est une aventure assez extraordinaire qui est juste de la cohérence entre ma carrière, mes ambitions, pas mes ambitions, mais ma vision personnelle, ce pourquoi je me lève tous les jours. Je suis aussi papa de 2 enfants, j'ai envie d'assumer qu'on peut modifier le monde qui nous entoure, la manière de vivre ensemble. Et c'est ça qu'il faut aussi assumer. Une entreprise, c'est bien, mais on a aussi comme rôle en tant qu'entrepreneur citoyen de participer à la vie de la société, de vivre ensemble. Et donc, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait à l'époque quand j'étais candidat et j'essaie de le faire maintenant, d'ailleurs, surtout via la fédération, puisque je sais que c'est en travaillant aussi ensemble sur un secteur qu'on arrive à faire évoluer les choses. Donc, cette casquette, entre guillemets, politique partisan, je vais et j'en fais moins, mais je me consacre surtout maintenant à développer le secteur du réemploi via la fédération et ce réseau d'entrepreneurs, de dirigeants du réemploi.
Tu restes proche du terrain finalement. Et qu'est-ce que je voulais te dire ? Si on revient un petit peu plus sur ta casquette de chef d'entreprise, qu'est-ce qui manque selon toi pour convaincre un plus grand nombre d'entreprises à passer la seconde, quoi ? Parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, tout le monde dit « oui, c'est bon, on a pris conscience », mais bon, dans les faits, ça reste de la prise de conscience, disons. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, à ton avis, pour que ça passe la seconde ?
Déjà, c'est le réseau. Enfin, faut que les gens fassent partie de réseau. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Faut rencontrer des gens, discuter, être proche du terrain, challenger ses idées, prendre des idées, recycler des idées. Il faut être proche du terrain. Donc ça, c'est ma première premier réflexe. C'est surtout pas partir tout seul, pied en tête. Ça, c'est pas durable forcément. Deuxième conseil. C'est de monter une équipe, d'avoir une vraie équipe qui soit complémentaire. Troisième, c'est de fournir un service utilisé, utilisable et facile d'utilisation par des utilisateurs, d'avoir une expérience client les plus simple. Et puis, bien sûr, de penser économie d'échelle, de penser usage. Ça peut être aussi des choses locales qui peuvent être aussi utilisées. Les ressourceries, il y a encore plein de ressourceries à créer, il y a encore plein de nouvelles choses à créer en local, des ateliers de réparation. J'étais encore là cet été, je suis allé voir des copains à Angers qui travaillent sur tout ce qui est prêt de matériel de bricolage, ateliers de réparation. C'est des ressourceries qui se mettent aussi à faire du service pour aider les gens à réparer les produits qui sont chez eux. Donc, il y a encore plein de choses à inventer. Ça serait trop court pour en parler maintenant, surtout que je dois aller cuisiner pour les collègues là, pour qu'on mange à 12h30.
Ouais,
donc là, on doit servir le repas à 12h30, donc là je commence à être un peu en retard. Donc là, je suis désolé, on pourrait faire l'objet d'une autre discussion sur ce sujet-là s'il y avait besoin. Quoi.
Non, mais t'inquiète, si déjà t'as pu nous donner quelques conseils, c'est parfait. Et puis, justement, on en est à la fin de notre entretien, donc écoute, c'est top. On va te laisser aller cuisiner tranquillement. Et est-ce que éventuellement tu veux ajouter un dernier mot de conclusion ?
Mon mot de conclusion, c'est de se dire qu'il faut faire la révolution du commerce. Il faut penser autrement la manière de consommer. Il faut se rassembler autour de vrais sujets concrets et qu'on a tous une responsabilité face un peu à cet effondrement de société, à ce changement de paradigme économique, de penser le nouveau modèle, de vivre ensemble. Et l'économie circulaire est pour moi une piste, une manière de penser justement un autre mode d'économie, d'échanger ensemble. C'est pas forcément dans l'état actuel des choses le plus abouti. Il y a encore beaucoup de concepts. Ce concept mérite encore d'être développé et d'être plus travaillé. Et c'est là où ce que tu fais, Brieux, c'est top. Et à nous tous de se rassembler pour continuer à réfléchir à cette nouvelle économie que l'on souhaite et à surtout avant cette économie à se vivre ensemble.
Oui, tout à fait. Surtout qu'il y a un problème de définition, notamment en France, sur l'économie circulaire. Chacun tire de son côté, tu l'as évoqué tout à l'heure, que ce soit les recycleurs, les industriels, etc. Chacun voit midi à sa porte, alors qu'au niveau global, systémique, ce n'est pas forcément toujours les bonnes définitions qui sont prônées.
Voilà, je dois vous laisser pour aller faire mon crumble.
Ça marche. Un grand merci, Benoît, en tout cas. Et puis, je te dis à très vite. Ah, tu avais évoqué un code pour ceux qui souhaitent commander leur prochain téléphone sur e-commerce.
Ouais, effectivement, alors par contre, il faut que je le crée pour qu'il soit valable un mois ou deux parce que ça va circuler sinon. Et donc, je peux te le redonner plus tard sur...
Ça marche. Bah, on le rajoutera dans l'article dans ce cas-là.
Ouais, on fait ça.
Un grand merci à toi. Passe un bon déjeuner.
Merci, Brieux, à très bientôt.
Ciao, ciao.
Au revoir à tous et toutes.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.